Dans la présentation précédente, nous avons vu ce qu'était une donnée géolocalisée. Dans ce chapitre, nous allons parler des différents types de données géospatiales. Pour rappel, les données sont généralement géolocalisées sur la surface de la Terre. Toutefois, il existe des systèmes de référence de coordonnées pour les autres planètes du système solaire. Pour pouvoir être utilisées dans un système d'information géographique, elles doivent être numérisées, donc converties en 0 et 1. Les deux grands types de données les plus courants sont les données vectorielles et les données raster. Ces deux formats, pour des usages différents, pourront représenter les mêmes objets mais pas de la même manière. Par exemple, l'image centrale représente les mêmes objets physiques, mais de deux façons différentes. Certains formats ne sont pas destinés initialement à des usages SIG, mais qu'il est possible de convertir afin de les exploiter dans un système d'information géographique. Nous en reparlerons plus loin. La première grande famille de données, ce sont les données vectorielles. Il y a trois primitives géométriques. Les points, les lignes, les polygones, ainsi que des variations autour de ces trois primitives. Un point est connu en coordonnées en XY, éventuellement en Z. Il n'a pas de dimension. Une ligne est formée de deux points, aussi appelés sommets, ou vertex, qui sont reliés dans un certain ordre. Une polyligne est un ensemble de lignes successives ayant des sommets en commun. Un polygone est une polyligne fermée, c'est-à-dire que le sommet de départ et le sommet d'arrivée sont identiques. Tous les sommets, ou vertex, d'une polyligne ou d'un polygone sont des points, donc il y a une organisation organique entre ces différents objets. Chaque type de primitif peut être utile pour représenter certains phénomènes physiques. Par exemple, pour des phénomènes ponctuels, si vous voulez indiquer des points d'intérêt sur une carte, vous allez peut-être vouloir utiliser des points ou des pictogrammes pour les représenter. Vous pouvez utiliser des lignes pour représenter des axes de communication, des grands axes routiers ou de train. Mais également des réseaux de transport d'énergie, d'eau, ou tout autre type de réseau avec des polylignes. Et vous pouvez utiliser des polygones pour tout ce qui va être surfacique, vos propres zonages, des espaces fonctionnels ou des contours administratifs. Ce qui fait la richesse des données vectorielles, c'est que nous disposons de la forme ou géométrie d'un côté, et les données attributaires de l'autre, et d'un moyen de lier les deux. Par exemple, dans le format shapefile, dans lequel la géométrie des objets est stockée dans un fichier et les données dans un autre fichier. Chaque point a un identifiant unique. Avec cet identifiant, le logiciel pourra associer les données d'un objet à sa géométrie. C'est valable aussi pour les lignes et les polygones. Il est possible d'interroger les objets sur leur géométrie, par exemple en disant « Je ne veux que les polygones qui font telle surface ou plus ». Mais vous pouvez aussi dire « Je ne veux que les polygones où l'on cultive des pommes » en interrogeant les données attributaires. Vous pouvez à la fois travailler sur la géométrie et sur les données. Voici quelques formats de fichiers utilisés pour stocker et échanger des données vectorielles. Shapefile, GeoPackage, GeoJSON. Le Shapefile est un format très courant, devenu un standard de facto, car très largement répandu. C'est un format ouvert, mais vieillissant. C'est pourquoi le format GeoPackage est de plus en plus utilisé. Le GeoPackage a de nombreux avantages. Toutes les données sont dans un fichier unique, alors que le shapefile est composé de plusieurs fichiers. Il est possible d'avoir plusieurs couches dans un seul fichier GeoPackage, alors que le shapefile est limité à une couche de données vectorielles uniquement. Le GeoPackage étant une base de données, il est possible de mélanger différentes couches. C'est-à-dire que vous pouvez non seulement avoir plusieurs couches vectorielles, ou plusieurs couches raster, mais aussi des couches de raster et de vectoriel au sein du même fichier. Et puis vous allez aussi retrouver régulièrement du GeoJSON, très pratique pour être utilisé dans les applications web pour le web mapping. L'autre grande famille de données, ce sont les données raster. Elles sont adaptées pour le suivi de phénomènes continus. L'image à gauche nous montre des prises de vue satellite de la même zone. Elles ont été prises à plusieurs intervalles de temps différents. Il existe plusieurs types de données raster. L'imagerie optique capte le rayonnement électromagnétique, réfléchi par les objets observés. Il s'agit de la lumière visible que l'être humain perçoit, mais pas uniquement. L'imagerie radar permet un suivi de l'élévation et des altimétries. Ça permet de suivre la météo, la hauteur des vagues, etc. Les modèles numériques de terrain, ou les modèles d'occupation des sols, sont la représentation simplifiée de la réalité terrain. Ce seront des données pré-traitées à partir de données brutes. Par exemple, l'image en bas à droite est un modèle d'occupation des sols, produit par le CESBIO, généré automatiquement à partir de l'imagerie satellite Sentinel-2. Comment représente-t-on les données raster? Les données seront toujours sous la forme d'une grille régulière de pixels. Les pixels peuvent être carrés, ou parfois rectangulaires suivant le capteur. Ce sont les pixels qui portent l'information, et ces pixels sont géolocalisés. Il existe plusieurs formats. Le plus courant est le GeoTIFF. Il y a aussi l'ESRI ASCII, ou le XYZ. Les images, et les pixels qui les constituent vont avoir certaines caractéristiques. La résolution spatiale, la résolution temporelle, la fauchée et la résolution spectrale. La résolution spatiale permet d'évaluer la portion de terrain représentée par un pixel. Comme toute photographie numérique, l'image est découpée en pixels, suivant la précision du capteur et l'altimétrie de la prise de vue. La portion de terrain que représente un pixel variera selon la plateforme, c'est-à-dire le satellite, le survol aérien ou drone. Par exemple, pour une image prise par un satellite Sentinel-2, la résolution spatiale dans le visible est de 10 mètres. C'est-à-dire qu'un pixel d'une image correspond à un carré de 10 mètres par 10 mètres au sol. La résolution temporelle est l'écart de temps entre deux prises de vue. Il peut être très régulier, c'est le cas par exemple des satellites de la constellation Sentinel-2. La résolution temporelle est de 5 jours. C'est-à-dire qu'un endroit sera survolé tous les 5 jours par l'un des deux satellites de cette constellation. Ce qui est très régulier et permet de se rendre compte rapidement des changements comme l'impact d'inondations ou d'incendies. Pour les prises de vue aériennes qui sont faites par l'IGN, elles ont une résolution temporelle de 3 à 5 ans. C'est-à-dire qu'un département sera survolé intégralement tous les 3 à 5 ans. La résolution spatiale sera très bonne, de 10 ou 20 cm, mais le survol sera beaucoup moins fréquent qu'une prise de vue satellite. La fauchée, aussi appelée emprise, est la portion de terrain couverte par une prise de vue. Le capteur ayant des limites, les images prises seront aussi limitées. Pour Sentinel-2, elle est de 290 par 290 km, alors que pour Landsat 8, elle est de 185 km. Les fauchées étant de plus en plus grandes et les capteurs de plus en plus précis, les images sont de plus en plus volumineuses, atteignant plusieurs gigaoctets. Autre point important à appréhender pour travailler les données raster, c'est la résolution spectrale. Elle correspond à la finesse des canaux du spectre électromagnétique que le capteur enregistrera. C'est-à-dire le nombre et largeur des bandes qui sont enregistrées par le capteur. C'est propre à chaque capteur. Par exemple, pour la constellation Sentinel-2, les deux capteurs sont identiques, composés de 13 bandes chacun, pour prendre le même type d'image. En effet, certaines longueurs d'onde du spectre électromagnétique sont absorbées par l'atmosphère terrestre et ne sont donc pas visibles depuis l'espace. Lors de la conception du capteur, des bandes correspondant à une certaine fraction du spectre électromagnétique seront déterminées en fonction des applications recherchées. Les bandes vont pouvoir être combinées pour créer des compositions colorées ou calculer les indices permettant le suivi de la santé de la végétation, la détection d'incendies, etc. Détaillons un peu. Par exemple, le RGB est couramment utilisé pour représenter des couleurs sur un écran. Ainsi, chaque pixel de l'écran est composé de 3 sous-pixels, c'est-à-dire rouge, vert et bleu. Pour représenter une image, chaque pixel aura une intensité déterminée pour chaque sous-pixel. Ainsi, pour représenter une image Sentinel-2 dans le spectre visible, nous utilisons les valeurs de la bande B2 pour le bleu, la bande B3 pour le vert et la bande B8 pour le rouge pour calculer l'intensité de chaque sous-pixel. D'autres bandes peuvent aussi être utilisées, l'imagerie optique ne se limite pas au RGB. Les autres bandes pourront être avoir d'autres utilités. Par exemple, la bande B1 sert à évaluer les aérosols. La bande B9 permet de détecter la vapeur d'eau et la B10, les nuages de type cirrus. Les bandes B11 et B12 permettent de différencier la glace, la neige et les nuages. Les bandes de B5 à B8A sont dans le proche infrarouge. Les données de ces bandes sont adaptées pour calculer des indices de végétation. Cela permet de voir par exemple le stress hydrique des végétaux, les dégâts après incendie, etc. Donc, la combinaison des bandes avec des moyens informatiques permettra de détecter un certain nombre d'événements. Le programme Landsat est développé par la NASA et l'USGS, Institut des études géologiques américain, dans les années 1960. Et le premier satellite Landsat 1 est lancé en 1972. Les données prises par Landsat 7, lancé en 1999, et Landsat 8, lancé en 2013, ont de meilleures performances que les précédents satellites Landsat avec des bandes spectrales spécifiques. Landsat 8 et Sentinel 2 sont des projets assez proches en termes de temporalité, les performances des capteurs sont donc proches, et il est possible de retrouver des bandes similaires entre ces deux programmes. Il existe d'autres types de données géospatiales. On va retrouver les nuages de points LIDAR. Donc les formats LAS, LAZ et XYZ. Sur l'image, on voit un laser qui va projeter un faisceau lumineux à 360 degrés. L'appareil mesure l'heure et l'angle de départ du faisceau, ainsi que son heure et son angle de retour. La vitesse de la lumière étant constante, le temps de parcours du faisceau permet de calculer la distance. Connaissant l'angle et la distance, il est possible de calculer la position du point visé en 3D autour de la prise de vue. Le capteur peut être au sol ou monté sur un drone ou sur un avion. C'est avec ce type de levé LIDAR que sont calculés par la suite les modèles numériques de terrain ou d'élévation. Le modèle numérique de terrain, appelé MNT, est une grille régulière dont chaque cellule portera une altimétrie. Elle représente la surface du sol, sans les bâtiments, ni les arbres par exemple. Le modèle numérique d'élévation, MNE, ou appelé modèle numérique de surface, prendra en compte le sol et les éléments fixes du sursol, bâtiments et les végétations, etc. Il existe aussi des formats de données géolocalisées spécifiques à certaines applications. Par exemple, pour les données environnementales, ou utilisées par les naturalistes comme le format NetCDF, le format GRID, le format HDF, ou les formats qui sont liés à la conception assistée par ordinateur, DWG, DXF, qui ne sont pas non plus directement lisibles par un système d'information géographique, mais qu'il est possible de transformer pour les intégrer. Je vous remercie.